Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans Mateo Falcon, une nouvelle assez puissante de Prosper Mérimée. Elle nous transporte en Corse au début du 19e siècle. Vous avez été nombreux à partager vos notes et analyses, et on va décortiquer ensemble tous les thèmes, les personnages de cette histoire qui est vraiment captivante.
Ouais, et c'est fascinant avec Mateo Falcon, c'est qu'on est vraiment plongé dans un monde très rude, régi par un code d'honneur très strict. Et le décor, le maquis corse, imprègne l'histoire d'une atmosphère sauvage implacable.
Ah, le maquis, ouais. On sent que c'est plus qu'un simple décor. C'est presque un personnage à part entière. Avec cette végétation dense, impénétrable, qui sert de refuge aux bandits et aux marginaux.
Tout à fait. Le maquis symbolise à la fois la liberté et la résistance, mais aussi l'absence de loi, un espace hors de portée de l'autorité. Et c'est précisément dans cet environnement sauvage que vont se jouer les événements clés du récit.
Et au cœur de ce récit, on trouve Mateo Falcon. Un personnage complexe et fascinant. C'est un tireur d'élite réputé. Fier, inflexible, il incarne parfaitement ce fameux code d'honneur corse. Mais il n'est pas si simple que ça, n'est-ce pas?
Effectivement, Mérimée nous dresse un portrait assez nuancé de Mateo. Il est capable d'hospitalité, mais aussi d'une violence impitoyable. Il peut se montrer généreux avec ses amis, mais impitoyable envers ses ennemis. C'est une incarnation des contradictions de ce code d'honneur corse où la loyauté et la vengeance se côtoient de très près.
Et c'est là que l'histoire prend un tournant dramatique. Matteo est absent et son fils de 10 ans, Fortunato, est laissé seul à la maison. Arrive alors un bandit blessé, Gianetto Sampiero, qui cherche désespérément à échapper aux voltigeurs. La police corse.
Fortunato, malgré son jeune âge, fait preuve de ruse au départ. Il marchande avec Gianetto. Il démontre une intelligence, un sens de la négociation qui semble héréditaire dans la famille.
On sent déjà poindre le caractère de Matteo chez son fils. Mais c'est sans compter sur l'arrivée de Teodoro Gamba, un adjudant des voltigeurs. Et pour rendre les choses encore plus complexes, c'est aussi un parent éloigné de Matteo.
Ah, Teodoro Gamba. Un personnage rusé et manipulateur. Il comprend vite que Fortunato détient la clé pour capturer Gianetto. Et pour le faire parler, il utilise une arme redoutable, une montre en argent étincelante.
Plus qu'un simple pot de vin, elle devient un symbole puissant, n'est-ce pas?
Absolument. Elle représente l'attrait du monde moderne, avec ses tentations et ses valeurs qui s'opposent à celles de la Corse traditionnelle. Et malheureusement, pour Fortunato, il ne peut pas résister à cet appel. Il révèle la cachette de Gianetto.
C'est le début de la tragédie. Ah, car aux yeux de la société corse, la trahison est un crime impardonnable. Gianetto maudit Fortunato en lançant « maison de prêtre ». Des mots qui vont sceller le destin du jeune garçon.
Matteo se retrouve face à un dilemme terrible. L'amour paternel qu'il ressent pour Fortunato entre en conflit direct avec le code d'honneur inflexible auquel il a voué sa vie. Comment concilier ces deux forces opposées?
Et on imagine le déchirement intérieur que traverse Matteo à cet instant. D'un côté, son fils, son sang. De l'autre, l'honneur, la réputation de sa famille, les valeurs qui définissent son monde.
Giuseppa, la mère de Fortunato, incarne cette voix de la compassion. Femme pieuse aimante, elle implore Matteo de faire preuve de clémence, de sauver son fils.
Mais Matteo lui reste prisonnier de ce code d'honneur qui ne souffre aucun compromis. Il voit la trahison de Fortunato comme une tache indélébile sur l'honneur de sa famille.
Une tache qui, selon lui, ne peut être lavée que par le sang. On arrive à cette scène terrible où Matteo, après avoir contraint Fortunato à prier, exécute son propre fils de sang-froid.
C'est une scène d'une violence inouïe qui nous laisse complètement bouleversés. On se demande où c'est de la justice, de la vengeance, ou quelque chose d'encore plus complexe.
Replongeons-nous dans cette Corse sauvage où l'honneur se paie parfois au prix fort. Matteo vient d'accomplir l'irréparable, tuer son propre fils pour laver l'affront de la trahison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quels sont les effets de cet acte brutal sur Matteo, sur sa famille, sur notre perception de la justice?
C'est vrai qu'on reste suspendu à cette question. Qu'est-ce qui se passe après ce geste terrible? On a du mal à imaginer Matteo, même après avoir invoqué la justice, rester insensible au poids de son acte.
Justement, Mérimée nous décrit une scène assez glaçante après l'exécution. Matteo sent même un regard pour le corps de son fils, retourne vers sa maison pour prendre une bêche afin de l'enterrer.
Ce détachement, cette absence d'émotion apparente, c'est troublant. Est-ce que Matteo cherche à se protéger?
À refouler l'horreur de ce qu'il vient de faire.
C'est une interprétation possible. Mais on peut aussi y voir une forme de stoïcisme, une façon de gérer le couac psychologique immense de sa décision. N'oublions pas que Matteo est un homme profondément ancré dans une culture qui valorise l'honneur par-dessus tout. Montrer de la faiblesse, exprimer son chagrin, serait considéré comme un déshonneur supplémentaire. En somme, il est prisonnier de ce code d'honneur, incapable de laisser transparaître ses émotions, même dans un moment aussi tragique. Mais Giuseppa ne peut pas rester insensible à la mort de son fils.
Effectivement, Alors que Matteo s'approche de la maison, il croise Giuseppa qui court vers lui, visiblement alerté par le coup de feu. Imaginez l'angoisse qui la tenaille, elle, qui a été témoin de la fureur froide de son mari, de son attachement inébranlable au code d'honneur.
Elle lui pose alors une question simple mais lourde de sens. Qu'as-tu fait ?
Et la réponse de Matteo est tout aussi concise, justice. Un seul mot qui en dit long sur sa conviction profonde d'avoir agi correctement en accord avec les lois immuables de son monde.
Un mot terrible qui nous glace le sang car on comprend que pour Matteo, il n'y avait pas d'autre issue possible. Mais comment Giuseppa réagit-elle face à cette justification implacable ?
Mérimée ne nous décrit pas explicitement sa réaction émotionnelle. Au lieu de cela, on observe sa force de caractère, son pragmatisme. Elle se contente de demander « Où est-il ? » Et lorsque Matteo lui explique qu'il va enterrer Fortunato, elle ne proteste pas.
C'est comme si elle avait accepté l'inévitable. Elle savait peut-être pas de l'instant où Gianetto a prononcé le mot « traître » que le sort de son fils était scellé.
C'est une lecture très fine du texte. Giuseppa, malgré son amour profond pour Fortunato, comprend les règles de ce monde. Elle sait que pour Matteo, il ne pouvait y avoir d'autre dénouement. Elle incarne cette part de la cohorte qui subit la loi du silence, la violence du code d'honneur.
Et on voit bien que cette tragédie ne touche pas uniquement Matteo et Giuseppa. N'oublions pas que Matteo demande à Giuseppa de faire venir son gendre Teodora Gianchi pour vivre avec eux.
Ce détail apparemment anodin est en réalité très significatif. Il met en lumière les conséquences pratiques de la mort de Fortunato. Matteo a besoin de quelqu'un pour l'aider à gérer ses affaires, pour perpétuer le nom de la famille.
La trahison de Fortunato lui a donc coûté non seulement sa propre vie, mais elle a aussi bouleversé l'avenir de toute la famille Falcone. L'impact est énorme, on le voit bien.
Exactement. C'est là toute la puissance du récit de Mérimée. Il nous force à prendre conscience des répercussions de nos actes, à comprendre que même des événements apparemment isolés peuvent avoir des conséquences profondes et durables.
C'est un rappel brutal de notre interdépendance, de l'impact de nos choix, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent.
Et cela nous amène à interroger la notion même de justice de vengeance, du prix que nous sommes prêts à payer pour défendre nos convictions, même lorsqu'elles entrent en conflit avec nos instincts les plus profonds.
On a beaucoup parlé de l'honneur de Matteo. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le rôle du maquis. On a évoqué sa symbolique de liberté et d'absence de loi. Mais comment cet environnement participe-t-il à la tragédie qui se joue ?
Excellente question. Le maquis, avec son isolement et son terrain accidenté, nourrit une culture d'autosuffisance et d'indépendance. Mais il engendre aussi une certaine dureté, un sentiment que la survie dépend d'une adhésion stricte à un code de conduite inflexible.
Donc d'une certaine manière, le maquis lui-même devient une métaphore de la nature impitoyable de la société corse.
Tout à fait. C'est un lieu où les transgressions sont rarement pardonnées, où les conséquences de la trahison peuvent être rapides et brutales. Et ce paysage hostile reflète la dureté du code moral qui conduit finalement à la perte de Fortunato.
Et la montre en argent dans tout ça. On a dit qu'elle symbolisait l'attrait du monde moderne. Mais peut-on approfondir cette symbolique ?
Bien sûr. La montre en argent, avec son mécanisme complexe et sa surface brillante, représente un monde qui s'étend au-delà des limites du maquis. Elle incarne le progrès, la sophistication, la richesse matérielle, autant d'éléments qui contrastent fortement avec les valeurs traditionnelles du monde de Matteo.
Fortunato est donc en quelque sorte séduit par ce symbole d'une vie différente. Il aspire à quelque chose qui dépasse la dure réalité de son existence. On peut imaginer que cette montre représente aussi la fascination pour un monde moins rude, moins sauvage. Peut-être celui des villes côtières plus prospères.
C'est une observation pertinente. Et c'est précisément ce désir de la montre de ce qu'elle représente qui lui conduit à sa perte. C'est comme si le monde moderne, avec ses tentations et ses complexités, avait infiltré ce coin isolé de la Corse, perturbant les anciennes traditions et déclenchant une série d'événements tragiques.
L'histoire de Fortunato nous rappelle que même les sociétés les plus reculées ne sont pas à l'abri de l'influence du changement du progrès et que ces changements peuvent souvent avoir des conséquences imprévues.
Absolument. Et dans la dernière partie de notre exploration, nous examinerons les implications plus larges du récit de Mérimée en analysant comment il aborde des thèmes intemporels comme l'honneur, la trahison et le pouvoir persistant des normes sociales. Restez avec nous.
On a parcouru beaucoup de terrain dans cette Corse sauvage, au cœur des dilemmes moraux et des traditions ancestrales. On a vu comment le destin de Fortunato s'est joué broyé par les rouages d'un code d'honneur impitoyable. Mais au-delà de l'histoire elle-même, quel est le message profond de Mérimée ? Qu'est-ce que Matteo Falcone nous dit sur nous-mêmes, sur notre propre rapport à la justice et aux valeurs qui nous guident ?
Matteo Falcone n'est pas simplement une histoire corse. C'est une œuvre qui transcende les frontières et les époques et qui nous interroge sur des questions universelles. La justice, la morale, le poids des traditions, le conflit entre les désirs individuels et les attentes de la société. autant de thèmes qui résonnent encore aujourd'hui avec une force incroyable.
Justement, parlons de ce code d'honneur qui semble dicter chaque action, chaque décision des personnages. On a utilisé le terme honneur à plusieurs reprises, mais j'aimerais qu'on le décortique un peu. Que signifie réellement l'honneur dans ce contexte corse du deuxième siècle ?
L'honneur en Corse, à cette époque, ce n'est pas juste une question d'intégrité personnelle. C'est un système de valeurs complexes, un code de conduite qui régit tous les aspects de la vie sociale. L'hospitalité, la loyauté, la vengeance, tout cela est inextricablement lié. Violer ce code, c'est non seulement se déshonorer soi-même, mais aussi jeter l'opprobre sur sa famille et sur son clan.
Et Matteo incarne ce code d'honneur à la perfection, quitte à aller jusqu'à l'extrême. Pour lui, il n'y a pas d'autre choix que de tuer Fortunato pour laver l'honneur de sa famille. C'est ce qui le guide, ce qui l'aveugle peut-être.
C'est exact. Il est prisonnier d'un système qui ne laisse aucune place à la clémence, à la pitié. On pourrait se dire qu'il y a une forme de cruauté, de barbarie dans cet attachement aveugle au code d'honneur.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Mérimée ne condamne pas explicitement Matteo. Il nous présente ses actions dans toute leur complexité, sans jugement moral tranché. On est face à un dilemme moral sans solution facile.
C'est là toute la subtilité de Mérimée. Il ne nous donne pas de réponse toute faite. Il nous invite plutôt à considérer différents points de vue, à réfléchir aux nuances d'une culture où l'honneur et la violence sont intimement liés.
Ce qui nous ramène à la question de la justice. Est-ce que le geste de Matteo est un acte de justice ou est-ce simplement une vengeance déguisée en quelque chose de plus noble ?
C'est la question centrale, n'est-ce pas ? Du point de vue de Matteo, il applique la loi du pays, ce code non écrit qui régit sa société. Il est convaincu qu'en punissant Fortunato, il rétablit l'équilibre, il maintient l'ordre social.
Mais nous, en tant que lecteurs, on a accès à une perspective plus large. On est amené à considérer le coût humain d'un code aussi rigide, aussi impitoyable.
Absolument. On voit la peur de Fortunato, son désespoir. On reconnaît sa jeunesse, sa vulnérabilité face à la tentation. Et cela rend l'acte de Matteo d'autant plus brutal. D'autant plus tragique.
On en vient à se demander si Matteo aurait pu trouver une autre solution, une autre manière de répondre à la trahison de Fortunato. Ou est-ce que la violence était inévitable, inscrite dans la nature même de la société corse ?
C'est une question qui mérite réflexion. Mérimée ne nous donne pas de réponse définitive, mais il nous incite certainement à nous interroger sur le bien fondé d'un tel code d'honneur. Est-ce qu'un système aussi rigide, malgré ses intentions louables, ne finit pas par perpétuer un cycle de violence ?
Et Dieu n'est pas dans tout ça. Elle représente une autre voie, une vision du monde plus humaine, plus compatissante.
Tout à fait. Giuseppa incarne l'amour maternel, la foi religieuse. Elle plaide pour la vie de son fils, elle rappelle Matteo à sa propre humanité. Mais sa voix est finalement étouffée par la force irrésistible de la tradition.
C'est d'une tristesse infinie. Son impuissance face à la décision de Matteo met en lumière la place des femmes dans cette société patriarcale. Elles sont soumises à la loi des hommes, même lorsqu'il s'agit de la vie de leurs propres enfants.
C'est un point important. Le récit de Mérimée met aussi en lumière les rapports de force entre les sexes. Matteo est le chef incontestable du foyer, celui qui détient le pouvoir de vie et de mort sur les siens.
Ce qui nous amène à réfléchir à la façon dont les structures sociales, les rapports de pouvoir et les normes culturelles contribuent tous à l'issue tragique de cette histoire. Ce n'est pas seulement une question de choix individuel, mais aussi des systèmes qui façonnent ces choix.
Précisément. Et c'est ce qui lève Matteo Falcone au-delà d'un simple conte moral. C'est une œuvre qui nous parle de la condition humaine des conflits éternels entre le devoir, le désir et les conséquences souvent dévastatrices des pressions sociales.
Alors, en guise de conclusion, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire corse, nous qui vivons dans un monde si différent de celui de Matteo Falcone ?
Je crois que Matteo Falcone nous met au défi d'examiner nos propres codes de conduite, nos propres convictions profondes. Sommes-nous aussi prisonniers de certains systèmes de valeurs ? Nos actions sont-elles toujours guidées par la raison et la compassion ?
C'est un rappel que même les traditions les plus chères peuvent parfois avoir un côté obscur, qu'une adhésion aveugle à un système aussi noble soit-il peut mener à la tragédie.
Et peut-être le plus important, c'est que Matteo Falcone nous encourage à écouter ses voix qui offrent des perspectives différentes, qui remettent en question les normes dominantes, même lorsque ces voix sont étouffées par le poids des traditions.
Merci de vous avoir accompagné dans ce voyage au cœur de la Corse et de l'âme humaine. On espère que cette plongée dans Matteo Falcone vous aura donné matière à réflexion et qu'elle continuera à vous interroger sur vos propres valeurs, sur vos choix, dans un monde où le bien et le mal ne sont jamais des notions simples.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.